Bon, bonjour Loïc.
Bonjour Bernard.
Alors là, c'est ça vient de sortir là, il y a quelques minutes, ça commence à circuler, là, tremblement de terre majeur en Alaska.
Oui, tout près de Anchorage, en Alaska, qui est la capitale de l'Alaska. C'est un tremblement de terre de 7 à l'échelle Richter. Oui. À première vue, il ne semble pas y avoir de dégâts sur les immeubles, mais on redoute un tsunami. Et donc, il y a une alerte au tsunami qui a été lancée en Alaska. On suit ça.
Donc, à suivre ça, oui, effectivement. Bon, le G20 en Argentine, à Buenos Aires,
ça donne
lieu à toutes sortes de rencontres.
As-tu vu les...
Je suis gêné, là.
Écoute,
Poutine et Ben Salman, ils ont l'air de deux meilleurs amis du monde.
Ah, oui.
Ils ont l'air vraiment heureux de se rencontrer, de se revoir, là.
Oui, ils sont assis un à côté de l'autre, à la table.
Oui.
Et puis, ils se sont tapés dans la main, grand sourire, grand rire, rigolade.
Oui. Quand est-ce que je te vends un peu de quincaillerie militaire, mon Mohamed?
Ben oui.
Puis toi, tu pourrais m'envoyer un peu de pétrole, peut-être.
Et on a appris aussi que Emmanuel Macron allait avoir une rencontre bilatérale avec qui?
Avec Ben Salman.
Écoute.
Il me semble que c'est... Moi, je me garderais une petite gêne.
Il me semble, hein? Moi, je te serais
aux dernières nouvelles, en tout cas, Trudeau n'a pas de bilatéral avec Ben Salman.
J'espère qu'il ne va pas aller jusque-là.
Franchement, c'est beaucoup.
En tout cas, il y a aussi une rencontre qu'on suit beaucoup, c'est celle entre Trump et Xi Jinping. Il y a Peter Navarro.
Le Chinois.
Il y a Peter Navarro qui est vraiment un conseiller, un faucon de Trump contre la Chine qui va assister à cette réunion-là. Donc, on se demande ce qui va arriver. Trump a laissé entendre que les Chinois allaient lui faire une proposition de libre-échange. Lui dit « je ne veux pas tellement aller là ». On va voir ce qui va arriver avec ça aussi. C'est très important parce qu'évidemment, c'est toute la question du commerce bilatéral. Et je dois terminer en disant, ça va très mal.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Il semble, d'après ce qu'on a entendu dire, les Sherpas ont parlé un peu à des journalistes, on n'arrive pas à se mettre d'accord. On n'arrive pas à se mettre d'accord sur les changements climatiques, sur le commerce, sur l'immigration, sur les réfugiés, sur le multiculturalisme et sur l'acier. Et c'est tout ce que tous ces sujets ont en commun? Donald Trump.
Oui. Mais tu sais qu'il y a 45% des Américains qui l'appuient encore, mon ami.
Oui, oui.
Puis tu regardes ce qui se passe dans les sociétés, pas les sociétés américaines, mais d'autres sociétés occidentales. Tu as un courant de pensée de plus en plus fort qui est d'accord avec Trump.
Bien sûr.
Tu sais? Alors, il n'est pas tout seul, Trump, là.
Non, je vais juste te dire, regarde, c'est ces sujets-là que Trump a amenés sur la scène national et international.
Il est en train, dans le fond, de dicter l'agenda international par ses prises de position sur sur le commerce, sur l'immigration et tout le reste. C'est ça, dans le fond, que tu nous dis.
Oui, il a brisé le consensus. On n'arrive plus à s'entendre maintenant sur tous ces sujets-là. C'est ça qui est en train d'arriver.
Ouais.
Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à rédiger. On le fait à l'avance. On n'arrive pas à rédiger
les fameux communiqués communs.
Exactement.
Là. Très bien. Parlons un petit peu de... Tu voulais me parler de l'Inde. On n'en parle pas souvent de l'Inde, là, mais là, le chiffre que tu m'as donné est tellement effarant. Tu me dis combien de suicides par jour en Inde?
De paysans, d'agriculteurs, 420 par jour.
Ils se suicident pourquoi, les paysans en Inde?
C'est ça le problème. C'est que, figure-toi, qu'ils ont beaucoup de problèmes de changement climatique. Il y a de la sécheresse. Par exemple, dans le nord de l'Inde, il n'y a plus de rosée le matin parce que la température a augmenté. Ce qui fait que les récoltes sont moins importantes qu'avant.
Alors, ils crèvent de faim.
Ils perdent beaucoup d'argent. Et en plus, les prix des denrées alimentaires ont baissé, même si le gouvernement les subventionne. Et donc, les agriculteurs disent, écoutez, on n'arrive plus.
Ils sont désespérés.
On veut deux choses. On veut que vous augmentiez les prix, d'abord, des denrées agricoles, ou en tout cas...
À la ferme,
c'est ça, parce qu'ils sont subventionnés. On veut que vous augmentiez les subventions. Et on veut aussi que vous annuliez toutes les dettes qu'on a. Plus de dettes pour nous.
Oh boy.
Ouais,
ben là, c'est beaucoup, là.
C'est beaucoup. Mais en tout cas, il y a 300 000 personnes qui sont attendues à New Delhi. C'est la troisième fois.
300 000 manifestants.
300 000 agriculteurs. Puis il y en a ailleurs à travers l'Inde aussi, mais à New Delhi, 300 000.
Okay.
C'est vraiment un très, très gros problème en Inde. Et ça découle directement du réchauffement climatique.
Très bien. Parlons encore un petit peu d'agriculture. Les pesticides qui auraient fait des... on trouve des preuves des ravages causés par les pesticides.
Oui, c'est le Nouvel Observateur qui rapporte ça parce qu'il y a une ONG qui s'appelle Génération qui a pris des échantillons sur ses employés, sur des enfants, une quarantaine de personnes en tout. Et ils ont fait des tests extrêmement poussés pour savoir ce qu'on trouvait là-dedans. Et on a trouvé plein de produits interdits, des pesticides en particulier. Des pesticides qui sont soupçonnés de toutes sortes de problèmes, stérilité, malformation génitale chez les garçons, puberté précoce, obésité, diabète, troubles du comportement, cancer. Et on dit,
ça, c'est des,
qu'est-ce
c'est des gens de quel âge, ça, là? C'est des...
De tous les âges, puisqu'on parle de puberté précoce, donc jusqu'aux ans. Et ce sont des insectes, enfin, on retrouve des produits qui ont été interdits dans les années 50, mais qui, figure-toi, continuent à être présents dans la nature et qui, tranquillement, avec les années, ont remonté dans la chaîne alimentaire, atteignent les animaux, atteignent les êtres humains, finalement.
Atteignent les plantes.
Les plantes, bien sûr. Oui. Et donc, c'est toujours là. Et l'autre problème, ce sont les produits qui viennent de l'extérieur de l'Europe, qui viennent de pays où les règles sont pas les mêmes. Et ça empoisonne littéralement les citoyens européens tranquillement. C'est un lent empoisonnement qui se fait. Et il y a un problème, parce que on ouvre nos portes à toutes sortes de produits qui viennent de toutes sortes
au
de
au nom du libre-échange, notamment.
Au nom du libre-échange, mais on ne regarde pas ce qu'il y a là-dedans. Les pays disent, oui, on n'utilise pas ces insecticides, c'est certain, mais dans les faits, ils le font. Et donc, c'est un appel à ouvrir l'œil et à creuser un petit peu ce qui se passe.
Donc ça, c'est une étude qui a été faite. Ils ont prélevé des cheveux de salariés qui travaillent...
Et d'enfants
qui travaillent ou qui ont travaillé dans le domaine des pesticides ou qui ont été
dans l'ONG, je pense, dans l'ONG même. Ils ont été cherchés parce qu'il y avait des employés de l'ONG, ils ont fait ça sur des enfants et ils ont été très, très étonnés des résultats.
OK, mais cette ONG-là, elle travaille dans le domaine de l'agriculture, c'est ça?
Oui, elle s'appelle Génération, donc elle s'occupe de ce genre de choses.
OK. OK, c'est intéressant. Ça s'ajoute à...
Au lourd dossier.
Oui, voilà, c'est pas la première conclusion scientifique qui fait le lien, effectivement, avec ces produits. Parle-nous un petit peu du rapport de l'Institut Hoover, qui est quand même un institut très connu, très prestigieux aux États-Unis.
Avec raison. Il publie souvent des rapports sur la Chine. Moi, je lis ça régulièrement. Ils viennent d'en publier un qui a été écrit par une trentaine de spécialistes. Plus de 200 pages. Et ils disent, écoutez, la Chine a changé. Autrefois, on avait une rivalité économique avec la Chine. Maintenant, on a une rivalité politique et militaire, une rivalité de plus en plus affirmée et agressive. Ah. Et ils recommandent des mesures très précises. Ne plus donner de visa aux journalistes chinois. Que les chercheurs affiliés à toutes sortes de programmes de recherche en Chine soient considérés comme des agents étrangers.
Mais ça, c'est une façon quasiment de dire que la Chine n'est plus un partenaire, c'est devenu un adversaire, sinon un ennemi.
Ça devient l'Union soviétique.
C'est comme une nouvelle guerre froide. Si on met en place une politique comme celle-là, c'est une forme de guerre froide.
C'est exactement ça que cet institut dit. Et il dit, écoutez, ça a changé avec Xi Jinping, beaucoup. Moi, je te dirais non, ça fait longtemps que les Chinois ont ces objectifs-là. Mais ils découvrent subitement qu'il y a 360 000 étudiants chinois dans les universités américaines, 80 000 en plus dans les écoles secondaires. Ils disent, tous ces gens...
Ils vont retourner en Chine et ils vont nous faire concurrence.
Ils vont voler notre technologie et dans certains cas, ils font de l'espionnage.
C'est sûr.
Ils font beaucoup d'espionnage. Puis je dis, mais écoutez, ça fait 40 ans que ça dure et vous vous réveillez aujourd'hui. Un peu particulier tout ça. Évidemment, les Chinois démentent à travers Global Times, etc.
Oui, c'est sûr. Alors, je te souhaite un beau week-end.
À toi aussi.
Et c'est notre ami Paul Oud qui s'en vient. Il va nous parler du Canadien dans un instant.
Voilà.